Vous écoutez
RMC.
Good morning. Good morning. Good morning.
RMC. 5h-6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. Bon réveil en ce lundi 22 avril. Vous le savez, comme tous les matins, on vous accompagne en direct dans Charles Matin. Charles se repose un peu cette semaine, hein, il a bien raison et c'est bien mérité. Vous le retrouverez dès lundi prochain. Elle en revanche est de retour cette semaine, Géraldine Debory. Comment ça va, Géraldine?
Mais salut Martin, bonjour à tous. Bah ça va, écoute, ça va super bien.
Ouais, hein, reposé.
De vacances, oui, incroyable.
Vacances.
Ouais, j'ai dormi, c'était trop chouette.
Ça change. Effectivement, ça fait du bien quand on se réveille tôt le matin.
Bah ouais, ça fait
pour réveiller les auditeurs d'RMC, on imagine que ça fait du bien. Des vacances, en plus, niveau temps, ça a été pour toi,
bah, il a fait chaud, ouais. Carrément. Hein, le t-shirt, c'est plus trop le cas. Hein,
exactement, retour de vacances un peu plus frais, on va en reparler dans un instant. La bonne nouvelle, donc, le retour de Géraldine Demory ce matin. L'autre bonne nouvelle, en tout cas pour les supporters du PSG, bah, c'est la victoire du Parisien hier soir face à Lyon, 4-1. Bonne nouvelle donc pour les Parisiens, mauvaise si on est supporters lyonnais. Évidemment, on va en parler tout à l'heure dans la story sport avec Cédric Donneville, puisque les Parisiens ont surtout fait la fête au capitaine Marquinhos, qui est désormais le joueur le plus capé de l'histoire. On y reviendra tout à l'heure. Appelez-nous, tiens, supporter parisien, pour parler de cette rencontre. Évidemment, le 32-16, vous êtes ouvert hier soir au parc. C'était donc ambiance assez chaude, assez chaleureuse, rien à voir avec ce qui nous attend ce matin. Ambiance glaciale partout en France, c'est ce matin, mais c'est aussi depuis quelques jours le froid, le gel de retour. On a ressorti les cols roulés du placard. Alors on va pas spoiler ta météo, Géraldine, ça arrive dans un instant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas forcément un épiphénomène, là, ce qu'on voit, cette vague de froid.
Non, attends, on va pas parler de vague de froid. Hein, déjà, je t'arrête.
Le retour du froid.
Voilà. Ouais, effectivement, on est très très loin des records de froid qu'on peut avoir pour une fin avril. Non, ce qui était incroyable, c'était les records de chaleur qu'on a eu au début du mois. Ça, c'était incroyable. Là, c'est assez classique, cette vague.
On est sur des températures un peu plus fraîches, mais c'est vrai que c'est un coup de froid qu'on a plus l'habitude de voir à ce moment-là de l'année.
C'est vrai, alors c'est le 7e jour d'affilée qu'on est sous les normales, donc et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé.
Et ça va continuer ?
Ça va continuer encore aujourd'hui, demain, et puis après mercredi ça commence à remonter, et puis ce week-end on va repasser au-dessus des normales.
On en parle avec vous ce matin de ce temps au 32-16. Comment est-ce que vous vivez ce coup de froid, en tout cas cette chute des températures? Est-ce que ça vous met un coup au moral? Il y a des jours c'était pique-nique au grand air, maintenant on ressort les doudounes de la cave. Comment est-ce que vous vous adaptez? Quelles sont les conséquences sur votre quotidien? Et puis évidemment, on va vous poser la question ce matin: est-ce que vous avez rallumé le chauffage? Est-ce que vous avez pu rallumer le chauffage?
Oui.
Je pense notamment à ceux qui sont, Géraldine donc a rallumé le chauffage, mais je pense à ceux qui sont en logement collectif, dans les appartements.
Oui, qui n'ont pas le choix. Et oui, forcément à cette date, c'est pas systématique le chauffage.
Non, c'est pas forcément systématique. Appelez-nous, venez nous raconter comment ça se passe pour vous ce matin au 32-16. Et puis vous nous appelez aussi, évidemment, si vous êtes agriculteur. On imagine votre inquiétude, hein, là, depuis quelques jours. Venez nous dire comment vous avez passé la nuit et dans quel état sont les cultures ce matin. Vous faites le 32-16, vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
Et puis on trouvera aussi Manu Le Chypre, hein. Ce sera Manu Conso juste après 6h. Les livraisons express de courses à domicile qui pourraient bientôt disparaître. Avant cela, il y aura toute la bande avec Anthony Morel, hein, dans C'est déjà demain. On va faire chanter des photos.
Ça vaut le détour. Restez avec nous pour cette chronique d'Anthony Morel tout à l'heure sur RMC. D'abord, à 5h, Géraldine, on fait un point sur la météo. On le disait, il fait pas chaud.
Bah, météo fraîche, oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de gelée vraiment en pleine, mais les températures vont continuer de baisser, hein, jusqu'au lever du jour. Donc, on n'est pas encore au plus frais de la nuit. 2 degrés là en ce moment du côté de Nancy, 3 à Clermont-Ferrand. Cet après-midi, il fera 11 à Lille, à Lyon, 12 à Paris, il fera 14 à Marseille, à Toulouse, 15 à Bordeaux, jusqu'à 17 à Montpellier et Ajaccio. Avec quelques averses, hein, sur le massif central jusqu'aux frontières de l'Est, on peut avoir de la neige à partir de 400 mètres, hein, ce matin, donc vraiment à basse altitude. Un petit peu de pluie aussi près de la Manche. Ailleurs, ce sera calme, bien ensoleillé pour le sud-ouest.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Vous écoutez RMC, bon réveil à tous, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Et à 5h, le journal, c'est avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Une jeune femme de 27 ans meurt après avoir été éjectée d'un manège sur une fête foraine à Blois. Le rectorat de Montpellier prend des mesures disciplinaires contre les collégiens mis en cause dans l'agression de la jeune Samara. L'ado de 13 ans ne retournera pas à l'école ce matin. Et puis le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OL hier soir. Victoire 4-1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1.
La fête foraine de Blois a tourné au drame hier soir.
Une jeune femme de 27 ans a chuté d'un manège dans lequel elle se trouvait. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire, Nicolas Trénaud.
C'était l'une des nouveautés de la fête foraine de Blois cette année, le NFL, placé désormais sous scellé, un plateau incliné sur lequel tourbillonnent des nacelles, sorte de banquette pour trois personnes, d'où cette jeune fille de 27 ans a été éjectée. La mairie de Blois s'associe à la douleur des proches et précise via son porte-parole Jonathan Dogan que l'attraction respectait les normes.
S'agissant des documents obligatoires, tels le contrôle technique et le contrôle que nous avons opéré avec l'aide d'un cabinet que nous avons mandaté, il n'y avait aucune réserve à l'ouverture de ce manège.
Suite à ce drame, deux personnes qui sont montées dans ce manège affirment auprès d'RMC qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité. Mon fils a eu la peur de sa vie à cause de la barrière de sécurité jugée trop lâche au niveau de la taille, nous dit une mère sous le choc. Le chargé de communication de la fête foraine, Luigi Perrier, espère que l'enquête permettra d'éclaircir les causes de l'accident.
Si c'est une pièce qui est défectueuse, on espère juste que ça ne soit pas un manque de vigilance du forain. Maintenant, on va pas applaudir si c'est un mauvais comportement de la personne non plus. Car nous, une chose qui est sûre, on n'aurait jamais voulu que ça se passe.
Les professionnels, par précaution, rappellent qu'il faut bien tenir la barre de sécurité dans un manège et ne pas utiliser son téléphone portable.
C'est le moment redouté par des milliers d'automobilistes de retour de vacances, de week-end ou tout simplement en route pour le travail en provenance de Normandie vers Paris. Depuis jeudi soir, la 13 est coupée entre Vaucresson et le boulevard périphérique après la découverte d'une énorme fissure dans la chaussée. Ce matin, les usagers quotidiens vont devoir adapter leur itinéraire. Les taxis, par exemple, s'inquiètent du poids de cette fermeture sur leur activité. Abdelkader Morgade est le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des taxis indépendants.
La A13, c'est un artère principal pour nous, très important. Tout le monde va emprunter des itinéraires bis et on va tous se retrouver au même endroit. On a des clients qui ne veulent vraiment pas prendre le taxi parce que ça sera plus long. Et bien sûr, pour la facture, ça sera beaucoup plus cher pour eux. Le temps de revenir à vide, ça peut être aussi un temps énorme. Hein. Donc les deux sont perdants, et le client et le chauffeur. Hein. On ne sait pas dans combien de temps ça va être réparé, tout ça, mais ça va être catastrophique.
Elle ne reprendra pas le chemin du collège ce matin à Montpellier. Samara, l'adolescente de 13 ans, violemment frappée devant son établissement il y a 3 semaines. 3 mineurs sont mis en examen pour tentative d'assassinat. Julien Coudreau, la jeune collégienne, reprendra les cours à distance.
Son état de santé ne lui permet tout simplement pas, même s'il s'est amélioré depuis son agression, selon le rectorat. Impossible de reprendre les cours également, selon son avocat, qui décrit une ado quasi mutique, apeurée à l'idée de sortir dans la rue. Samara va donc suivre des cours à distance pour lui permettre de bénéficier d'une continuité pédagogique depuis son domicile, dans l'attente de son retour. C'est le souhait notamment de sa mère. Pas de rentrée non plus pour les mises en cause qui ont interdiction d'entrer dans leur établissement respectif. Tous n'étaient pas scolarisés dans le collège de Samara, mais tous passeront bientôt en conseil de discipline à brève échéance, selon le rectorat qui affirmait hier soir renouveler sa confiance aux équipes du collège Arthur Rimbaud. La rectrice pourrait rencontrer ses personnels ce matin alors qu'un préavis de grève a été déposé par la section locale du syndicat SNES-FSU pour dénoncer notamment le silence des autorités jusqu'alors.
Au moins 50 corps ont été exhumés dans un hôpital de la ville de Khan Younes, selon la défense civile de la bande de Gaza. Les fouilles continuent, précise un porte-parole, alors que le premier ministre israélien annonce préparer une intensification de la pression militaire contre le Hamas.
L'épisode de fraîcheur devrait durer une bonne partie de la semaine en France.
Un phénomène d'une durée et d'une intensité peu banale, avec des chutes de température de 20 degrés en une semaine dans certaines régions. Il ne fera pas plus de 10 degrés à Rouen, 11 à Lyon, 14 à Marseille. Alors, on tente de se réchauffer comme on peut et ça peut coûter cher, Inès Zegloul.
8 degrés dehors, à peine plus de 12 à l'intérieur.
Et la semaine qui s'annonce va être assez frigorifique. On va essayer de s'organiser pour qu'on n'ait pas trop froid.
Mais attention,
on a une petite chaudière qui est là, une chaudière au gaz.
Antoine est catégorique, il ne rallumera pas les radiateurs.
Si on peut faire la moindre économie pour essayer de limiter la facture, bah on le fait.
Alors ce père de famille ressort les pulls, dispose des plaids dans la chambre des enfants.
Voilà, on a la chance d'avoir une cheminée. Et donc, cette semaine, on va sûrement faire plusieurs feux de cheminée.
D'autres, en revanche, ont déjà cédé. Le chauffage est allumé, mais à contre-cœur.
On n'a pas le choix, de toute façon. On se prive d'autres choses pour payer le chauffage. Moins de restaurants, moins de sorties, moins de cinéma.
Alors, pour faire des économies en cas de chute des températures,
en se mettant une couverture ou un gros édredon en plus, on pourra mettre le chauffage sur la pièce de vie.
Françoise Thibault est représentante consommateur au Conseil supérieur de l'énergie.
Regardez ce qui existe comme contrat de fourniture d'énergie qui soit adapté à son propre mode de vie.
En souscrivant, par exemple, un contrat heure pleine, heure creuse, si ce n'est pas déjà fait.
Et vous, comment est-ce que vous vous adaptez pour ce retour des températures assez fraîches? On en parle ce matin, on vous pose la question au 32-16, comment est-ce que vous vivez ce coup de froid? Est-ce que ça vous met un coup au moral? Est-ce que ça vous inquiète également? On l'a entendu, hein, pour vos factures d'énergie, notamment, quelles sont les conséquences sur votre quotidien? Est-ce que vous avez été obligé de remettre en route le chauffage? Est-ce que vous êtes allé chercher les doudounes à la cave? Vous nous appelez au 32-16, vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio.
5 jours après une soirée de rêve à Barcelone en Ligue des Champions, le PSG a infligé une correction à l'OL hier soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés contre Lyon 4-1. Le club de la capitale continue sur la lancée infernale, Arthur Perrault.
Oui, après une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, Paris cartonne en championnat. Une victoire sans trembler et 11 points d'avance en tête du classement. Mais le capitaine Marquinhos reste prudent.
On enchaîne deux très bonnes prestations, très bons matchs, très bons résultats. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire. Il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qui est arrivé, moment décisif.
Luis Enrique a fait tourner son effectif. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc. Bradley Barcola et Gonzalo Ramos ont brillé. L'entraîneur parisien convaincu que son groupe est sur le chemin du succès.
Je crois que nous sommes à l'initio d'un projet.
Nous sommes au début d'un projet, mais oui, je vois mon équipe meilleure. On doit continuer à travailler, mais avec cette qualité d'effectif, on doit voir grand. J'ai beaucoup aimé notre match contre cet adversaire difficile.
À un rival difficile.
Paris peut espérer être champion de France pour la 12e fois dès mercredi soir en cas de victoire à Lorient, tout en espérant un faux pas de Monaco contre Lille.
Le PSG qui a vu son dauphin changer. Brest a cédé sa 2e place à Monaco. Les Monégas sont imposés à Brest 2-0. Marseille arrache le nul face à Toulouse de partout. Plus tôt hier dans la journée, victoire de Lille à domicile face à Strasbourg et de Montpellier à Reims. Et puis un record du monde a été battu ce week-end à New York par un Nigérian, Tunde Onakoya. Il a joué pendant plus de 58 heures d'affilée aux échecs sans aucune défaite. C'était à Times Square. Il a enchaîné ainsi les matchs, les affrontements avec des joueurs d'échecs, des Nigérians qui sont venus du monde entier pour l'encourager. Il a même reçu les félicitations du président nigérian. Et il va
58 heures.
Alors en plus c'est pour la bonne cause, hein, puisque il va remettre les recettes de cet événement à des associations caritatives pour encourager les jeunes de son pays. Le Nigeria a joué davantage aux échecs.
Ah bah bravo, ouais. Waouh.
Une belle initiative, puis un bel exploit, parce que déjà rester 58 heures éveillé, déjà
c'est... Oui, déjà c'est compliqué.
Premier exploit.
Mais sans perdre.
58 heures en jouant aux échecs, c'est costaud.
Ouais.
C'est pas mal du tout, c'est vrai.
Bon, en tout cas, moi je suis nul aux échecs, donc j'aurais jamais pu obtenir ce record du monde. Merci beaucoup Thomas, on te retrouve à 5h30 pour un nouveau journal, à 5h09 sur RMC. On va filer au 32-16 tout de suite pour parler du froid. On rejoint Marcel qui nous appelle depuis la Haute-Garonne. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour.
Bonjour Marcel.
Comment ça va ce matin Marcel?
Ben, ça va très très bien, impeccable, hein, au boulot. Bon, il fait un peu frais, 4,5 degrés, mais bon. Ça va, ici on est quand même habitué à avoir plus froid.
Ouais, vous êtes en altitude un peu, Marcel?
Je suis à côté des Pyrénées. Ouais. Ouais. En fait, je navigue entre les Pyrénées et l'Ariège pour livrer des gîtes, des EHPAD et quelques écoles. Je livre du pain, en fait.
D'accord. Et là, ce matin, enfin, j'imagine qu'il y a quelques jours, il faisait un peu plus chaud que ça. Vous avez perdu beaucoup de degrés là sur les dernières...
On passe de la tondeuse à la tronçonneuse, quoi, en fait. Hein.
comment vous gérez ça, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez rallumé le chauffage? Je sais pas.
Oui, tout à fait. En fait, comme j'ai le petit là, qui est là pendant une semaine, j'ai été racheter du pelé. J'ai un chauffage au pelé pour la maison. C'est une grande maison que j'ai en pierre. Donc, j'ai racheté 6 sacs de pelé, puis j'ai été chercher 2 stères de bois dans la forêt que j'ai fendu aujourd'hui, que j'ai préparé, puis on a tout allumé, en fait. Hein.
Ouais, c'était pas forcément prévu dans les dépenses quand on voyait les températures d'il y a quelques semaines.
Je pensais être tranquille par rapport à ça. Là, on arrive pratiquement au mois de mai, donc en principe, je pensais me ravitailler au mois d'août ou septembre.
Mais ça faisait pas être simple d'en trouver d'ailleurs, parce qu'effectivement, on n'a pas trop l'habitude de se fournir en cette période de l'année.
Oui, c'est vrai, mais il y en avait là. Il y a quand même pas mal de stock, donc il y en avait. J'ai pu aller en chercher, et j'espère qu'avec ces 6 sacs, je vais pouvoir faire la semaine pour arrêter définitivement le chauffage.
Mais en même temps, ça vous paraît pas non plus complètement surprenant ces températures en fin avril?
Non, c'est pas surprenant. Bon, moi, c'est surtout par rapport aux petits, en fait. Hein, autrement, ouais. Peut-être que moi, j'aurais rien fait. Mais bon, par rapport aux petits, je pouvais pas me permettre d'essayer un peu qu'il fasse trop froid, quoi.
Il a quel âge le petit?
Il a 3 ans.
Bon, on lui passe le bonjour, évidemment, au petit. Marcel, au-delà, alors évidemment, on n'est pas sur une vague de froid, comme on l'a dit, c'est juste les températures qui baissent fortement par rapport à des températures assez hautes, finalement, Géraldine, tu le disais tout à l'heure.
Oui, c'est surtout les températures qui étaient trop hautes en début du mois. Ouais.
Est-ce que ce yo-yo des températures vous inquiète un petit peu, Marcel ?
Oui, mais comme tout à chacun, je veux dire, on s'aperçoit que le temps part en live. Il y a des trucs qu'on voyait pas avant. C'est vrai que, comme dit Géraldine, ce qui est surprenant, c'est pas tellement ce froid, c'est surtout les écarts qu'on a. La semaine dernière, on était en t-shirt en train de tondre. Et là, aujourd'hui, c'est en train de tondre du bois, quoi. Donc, c'est surtout ces températures, ces différences qui sont, alarmantes, à mon sens. Après, je suis pas un spécialiste, donc je peux pas dire, mais bon.
Mais c'est plus c'est ça qui, ouais, c'est plus ça qui en tout cas questionne au mieux, oui, notamment dans les Pyrénées, je pense un peu partout en France. Merci beaucoup Marcel de nous avoir appelé
avec
ce matin.
Plaisir,
bonne journée.
On me signale que c'était votre première sur RMC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oh, il y a peut-être une petite coque de téléphone du coup.
Et
pour
bah
Marcel,
écoutez, hein, moi je suis preneur de vous l'envoyer cette coque de téléphone. On va vous envoyer ça. Restez avec
plaisir,
nous.
C'est très gentil à vous.
Ben merci de nous avoir appelé et puis à bientôt au 32-16. Marcel, faites comme Marcel, hein, d'ailleurs, appelez-nous au 32-16 et nous dire un peu comment vous organisez face au froid. Est-ce que, bah, comme Marcel, vous êtes allé acheter du bois, acheter des pelés pour essayer de trouver des solutions face à cette baisse des températures. 5h12 sur RMC, on joue tout de suite.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Comme tous les jours, à cette heure-là, sur RMC, on joue ensemble et on joue avec l'actu. Il faut répondre à une question que vous pose Géraldine.
Sur quel score le PSG s'est imposé hier face à Lyon en Ligue 1 ?
On apparaît dans le journal, on en parle régulièrement. Un score assez large pour les Parisiens hier face à l'Olympique Lyonnais en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Appelez-nous si vous avez la réponse. Vous envoyez le mot « actu » par SMS au 7-32-16. « Actu » par SMS au 7-32-16. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, Géraldine ?
Radio Réveil, super Radio Réveil de la marque Muse. Si vous êtes tiré au sort, il vous sera avec nous à 6h20. C'est le deuxième cadeau, ça.
Voilà, bon, en tout cas, pour remporter ce cadeau des Radio Réveil de la marque Muse, vous répondez à cette question: sur quel score le PSG s'est imposé hier face à Lyon en Ligue 1 en clôture de la 30e journée du championnat de France. Vous avez la réponse, vous prenez votre téléphone et vous envoyez le mot ACTU, ACTU, par SMS au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
RMC Police Justice, comme tous les matins, votre rendez-vous, une histoire repérée par le service PJ d'RMC aujourd'hui. C'est avec vous, Lucille Pascanet, bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, Lucille, vous nous parlez de ces responsables d'une secte qui sont jugés à Paris, accusés notamment d'abus de faiblesse, Lucille.
Oui, cette secte, c'est celle de la Grande Mutation. Elle a été fondée dans les années 80 par un certain Étienne Guillet, un ancien chercheur au CNRS, agrégé de biochimie notamment, qui avait fini par délaisser les sciences dures pour les sciences occultes. Il assurait avoir visité 22 planètes et être de retour sur Terre pour sauver une race élue, celle des bons êtres. Le gourou a réussi à fédérer au moins 200 fidèles autour de sa pensée, des hommes et des femmes fragiles, au profil souvent similaire. Les premiers signalements de proches d'adeptes remonte à 2012. Leur père, leur mère, leur mari, leur sœur se coupent du reste du monde. Ils utilisent un pendule jusqu'à 8 heures par jour, puisque grâce à cet outil, ils pensent détecter les mauvais êtres de leur entourage. Mauvais êtres qui s'avèrent souvent être ceux qui dénoncent leur embrigadement, qui s'inquiètent pour eux. Les adeptes se laissent pousser les cheveux et la barbe pour les hommes, puisque les poils deviennent des antennes cosmiques entre le ciel et la terre, selon Étienne Guillet. Sur ses conseils, des cancéreux arrêtent leur chimiothérapie. Des malades chroniques se soigne avec du sérum physiologique par exemple, avec bien sûr des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, le gourou ne sera pas sur les bancs des prévenus puisqu'il est mort en 2018. 5 cadres de la secte vont comparaître pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison.
Lucille Pascanet, reporter au service police justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Par endroit, on a perdu 20 degrés en seulement quelques jours. Le froid est de retour en France. Venez nous dire comment vous vivez ce rafraîchissement des températures. Est-ce que ça vous met un coup au moral, hein? Il y a 10 jours pour certains, c'était t-shirt, short et pique-nique dans les champs, dans l'herbe, dans les parcs. Aujourd'hui, bah, on ressort les doudous, on retourne à la cave pour ressortir les cols roulés. Comment est-ce que vous vous adaptez face à cette vague de froid? Quelles sont les conséquences sur votre votre quotidien. Est-ce que vous avez rallumé le chauffage et est-ce que ça vous inquiète de devoir rallumer le chauffage à cette période de l'année? On en parle tous ensemble au 32-16. Vous nous appelez donc au 32-16. Vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Mais avant cela, dans un instant, c'est RMC s'engage avec vous. A tout de suite.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h17.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et ce matin, c'est avec Guillemette Franquet qu'on s'engage avec vous. Bonjour Guillemette.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Guillemette, aujourd'hui vous nous parlez de santé et de mutuelle.
IRP Auto, plus précisément. Si vous travaillez dans le domaine de l'automobile, vous la connaissez forcément puisque c'est la mutuelle des professionnels du secteur. Mais depuis quelques mois, rien ne va plus. Plus de remboursement, plus de rentes versées, impossible de les contacter. Ce sont les assurés qui nous ont alertés, regroupés sur une page Facebook qui compte plus de 300 membres et qui ne cesse d'augmenter. Celso, par exemple, 62 ans. En février, il se fait poser une couronne dentaire. Depuis, il attend désespérément les 280 euros que doit lui verser IRP Auto.
Moi, aujourd'hui, je paye 88,30 € de mutuelle par mois. Par contre, au niveau traitement de dossier et réponse aux clients, c'est à leur bon vouloir. C'est pas normal. C'est pas ce que nous, on attend d'une mutuelle, si vous voulez. Surtout qu'on parle quand même de soins, on parle pas d'aller chercher une baguette. On n'a pas tous les moyens non plus d'avancer les fonds, donc c'est très compliqué.
Celso a fait un signalement sur le site du gouvernement Signal Conso, comme des dizaines d'autres assurés qui, pour certains, attendent des remboursements depuis décembre. Mais voilà, rien ne bouge.
Et pourtant, Guillemette, IRP Auto, c'est connu, c'est un grand groupe.
Oui, un groupe qui compte 750 collaborateurs, 150 000 entreprises adhérentes et qui gère la santé de 350 000 salariés ou retraités du secteur automobile. Solène Leroux les a donc contactés. L'entreprise dit être consciente des désagréments occasionnés. Tout ça est dû au changement du système informatique mi-décembre, nous dit-on. L'ancien logiciel a été fermé les 15 derniers jours de l'année dernière et ça a créé un volume important de dossiers en attente et des délais de traitement considérablement prolongés. Et 4 mois plus tard, ce n'est pas fini. Des interventions quotidiennes perturbent encore nos services, avoue le groupe, qui prévoit un retour à la normale d'ici la fin du mois.
Ah, bon, ça c'est la bonne nouvelle, en espérant que ça se vérifie, qu'IRP Auto respecte ses promesses. Qu'en est-il de Celso alors, Guillemette ?
Eh bien, c'est réglé. Nous avons transmis son dossier à la mutuelle. Il a été contacté dans la foulée. Et quelques jours plus tard, ses frais dentaires étaient remboursés. 280 euros donc, qui font du bien au portefeuille. Et on le comprend.
Merci beaucoup Guillemette Franquet, et encore bravo pour cette efficacité, l'efficacité désormais mondialement connue d'RMC s'engage avec vous. On rappelle l'adresse hein, si vous voulez contacter Guillemette Franquet, Amélie Rosic et toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous. RMC avec vous @rmc.fr. 5h20 sur RMC.
RMC, à vous de nous dire.
Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
Ça caille tous les jours par ici. On est pas à Miami.
On en est même loin.
Et oui, ça caille, la France grelotte à nouveau. On a beau être le 22 avril, il faut ressortir les doudounes, l'école roulée. On en parle tous ensemble ce matin au 32-16 et nous dire combien il fait, tiens, chez vous. Ça, c'est la première question qu'on va vous poser quand vous nous appelez au 32-16 parce que les températures se sont bien rafraîchies ces derniers jours. Une sorte de vague de froid qui s'est installée sur la France. Je sais que t'aimes pas ce mot.
Ne nous emballons pas quand même.
En tout cas.
Mais ça... oui, il fait froid. En fait, c'est le 7e jour là, d'affilée où on est sous les normales de saison. Alors, c'est vrai qu'on en avait perdu l'habitude. On est quand même très, très loin des records de froid à cette saison. Ce qui a été exceptionnel, c'est la douceur. On a battu, je crois, 250 records de chaleur là, en début du mois. Et donc, c'est vraiment ce contraste. En fait, on n'a plus de repères entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Le froid, là aujourd'hui, il n'est pas normal, il n'est pas exceptionnel. Mais l'écart qu'on a entre les températures d'il y a 10 jours et de maintenant, oui, ça c'est exceptionnel.
C'est ce yo-yo effectivement qui peut être inquiétant. Appelez-nous au 32-16. Comme Rémi, tiens, qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Salut Rémi.
Déjà au boulot Rémi ?
Oui, depuis 3 heures.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je fais du nettoyage.
Donc vous travaillez dehors ?
En partie, oui.
Comment ça se passe ? Maintenant déjà, il fait combien là à Grenoble ?
Et là, il faisait 2 tout à l'heure, j'ai 1 maintenant.
Ah ouais, là, ça va continuer de baisser jusqu'au lever du jour. Donc là, vous risquez d'avoir quelques gelées.
Bon, ça va, le boulot, ça se passe bien malgré ce retour du froid ?
Alors, on va pas mentir, ça pique un petit peu de sortir et de prendre ça dans la tête. Après avoir eu du 17 degrés le matin à la même heure la semaine dernière, ça fait mal.
Ouais, c'est ça, c'est ces écarts de température dont parlait Géraldine et que vous vérifiez, vous, du coup, du côté de Grenoble, Rémi. Comment on le vit, ça ?
Ah bah, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus fatigué, qu'on est plus facilement malade aussi. Enfin, c'est vraiment on sent que c'est pas normal, quoi. Je veux dire, d'avoir eu aussi chaud la semaine dernière, on voit que vraiment c'est absolument pas normal comme truc.
Mais c'est vrai que vous avez raison, Rémi. Hein. C'est difficile pour le corps parce que on s'habitue à une certaine température, et quand il y a un tel écart, c'est effectivement difficile pour le corps. Ça, c'est vrai.
Ça fait un peu peur par rapport au dérèglement climatique, parce que ça, c'est clairement ça, quoi. Je veux dire, des températures aussi élevées en avril, c'est pas normal. Hein.
C'est ça. Et vous avez raison, encore une fois, hein, c'est les températures élevées de la semaine dernière qui sont anormales, alors que le froid là actuel est plutôt classique.
Ça, d'accord, mais le chaud, non.
Ça affecte un peu le moral aussi, Rémi, ou pas?
Ben non, le moral, non. Disons que c'est un peu dur de sortir de chez soi, quoi. C'est tout.
Ouais, faut se motiver un peu plus le matin, quoi.
C'est ça.
Ouais, sortir de la couette est un peu plus compliqué. Comment ça se passe chez vous? Vous avez dû rallumer le chauffage?
Eh ben moi, pour l'instant, non. Mais du coup, je l'envisage, puisque moi, je suis un individuel. Par contre, ça fait aussi peur pour les gens qui ont les moins de moyens, parce que devoir allumer le chauffage quand, par exemple, on est au gaz pendant aussi longtemps dans l'hiver, dans les saisons plutôt, ça va faire des factures de malade. Hein.
Oui, ça risque effectivement de peser sur les factures.
Après, on a eu un hiver qui était quand même relativement doux, où on a eu moins besoin de chauffage que la normale aussi.
Oui, mais quand on pense par exemple à ceux qui sont en collectif, ils n'ont pas pu l'éteindre pendant des périodes d'hiver. Et du coup, là, ils vont devoir le maintenir allumé plus longtemps, ça va leur faire super cher.
Je sais pas s'ils vont le rallumer, d'ailleurs.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou il va falloir le rallumer, et ça dépend des copropriétés. Et le temps qu'on décide de rallumer, peut-être qu'on sera revenu sur des températures un peu plus normales.
Soit des factures, soit ils vont se geler chez eux.
Dans les deux cas, c'est pas une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir appelé ce matin depuis Grenoble. Et bon courage.
Bon courage, ça va remonter à la fin de la semaine.
Allez,
super, merci.
Tenez le coup, la fin de la semaine, ça ira mieux pour le boulot. Continuez de nous appeler ce matin au 32-16 si vous travaillez dehors comme Rémi, si vous êtes agriculteur aussi, évidemment, on pense à vous, et on imagine que vous passez des nuits en ce moment un peu délicates, ou en tout cas un peu préoccupées par ce qui se passe dans les cultures. Rappelez-nous au 32-16 comment ça se passe dans les jardins, comment ça se passe dans les champs. Est-ce que vous êtes allé chercher des vêtements à la cave, hein, tout simplement pour faire face à cette chute des températures? Vous l'avez compris, on regarde tous ensemble le thermomètre ce matin. Vous nous appelez au 32-16. On continue d'en parler.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, le journal de 5h dans un instant, dans 5 minutes. Et puis juste après, à 5h40, toute la bande de Charles Matin sera avec nous. Cédric Dandeville pour la Story Sport. On va parler de Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Hier soir, Anthony Morel va faire chanter des photos dans C'est Déjà Demain. Et puis on aura ta solution conso dans un instant, Géraldine aussi.
Ouais, j'ai déjà envie de repartir en vacances, tiens Martin. On va échanger nos maisons.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h26.
RMC,
la solution conso.
La solution conso, comme tous les matins, avec Géraldine Demory, qui rentre tout juste de vacances, mais qui a déjà envie de repartir. Et pour ne pas avoir de logement à payer, t'as profité des vacances pour essayer de trouver une solution. Tu nous parles ce matin de l'échange de maisons.
Ouais, figure-toi que ça existe depuis 70 ans. Mais ça fait que quelques années qu'on connaît ça en France. Et en ce moment, ça cartonne. L'avantage, évidemment, c'est le prix, hein, puisque vous évitez de louer un logement, puisque vous allez loger gratuitement chez quelqu'un. Ça permet aussi d'avoir quelqu'un chez vous pendant votre absence, donc c'est plutôt rassurant. Vous pouvez vous mettre d'accord aussi s'il y a des plantes à arroser ou un petit animal à s'occuper. Et l'échange peut être aussi étendu à la voiture. Donc ça aussi, ça fait une autre belle économie en vacances. L'inconvénient, il va falloir faire un petit peu de rangement et puis un minimum de place pour les vacanciers. Et puis, il faut avoir confiance, même si c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien. Justement parce que forcément, on est des deux côtés, à la fois celui qui bénéficie et celui qui prête.
Ouais, c'est gagnant-gagnant, mais concrètement, comment ça marche, Gerline?
Alors, le plus simple, vraiment, c'est de passer par une plateforme. Le leader en la matière, c'est Home Exchange. Les inscriptions ont augmenté de 50% rien que l'an dernier avec HomeLink. Alors ça, ce sont les premiers qui ont proposé l'échange de maisons. Forcément, il doit y avoir une réciprocité. C'est-à-dire que la personne chez qui vous allez doit venir chez vous, même si ça peut se faire en décalé au niveau des dates. En revanche, en passant par Home Exchange, c'est un système de points. Quand vous louez votre maison, vous allez gagner des points que vous pourrez ensuite dépenser en louant à votre tour un hébergement. Alors d'ailleurs, on parle de maison, mais ça peut être un appartement ou ça peut même être juste une chambre chez l'habitant. Dans tous les cas, il n'y a aucun échange d'argent. En revanche, il faudra payer une cotisation à la plateforme entre 125 et 160 euros par an. Ça permet notamment de bénéficier d'une garantie en cas quand même de déception, par exemple en cas d'annulation ou si l'annonce ne correspond correspond pas tout à fait à la réalité.
Ça, c'est pour quand on est propriétaire, mais est-ce que ça peut marcher aussi si je suis locataire?
Eh ben complètement, parce que comme il n'y a pas de transaction financière, c'est pas de la sous-location, c'est un prêt. Donc c'est possible, sauf s'il y a une mention contraire dans votre bail, et vous n'êtes pas obligé de prévenir le propriétaire. Et pour cette même raison, du fait qu'il n'y ait pas d'échange financier, votre assurance habitation couvre l'échange de maison, contrairement donc à une location payante. Et ne pensez pas que votre maison ne peut pas être intéressante sous prétexte qu'elle n'est pas en bord de mer ou au cœur d'une grande ville. La France est une destination qui est très recherchée sur l'échange de maison, donc à vous de mettre en avant les points positifs de votre logement.
Et ça peut être un bon plan, effectivement. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu vos vacances, par exemple, pour cet été, mais si vous cherchez à partir à coût réduit, ça peut être
en tout cas... Oui, puis dites-nous si vous avez tenté l'expérience.
Exactement. Appelez-nous, racontez-nous au 3216. Vous pouvez retrouver évidemment tous les conseils de Géraldine en podcast sur l'appli RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, à 5h28 sur RMC, vous avez reconnu la petite musique, c'est le signe qu'on va rigoler, qu'on va s'étendre un petit peu avec Arnaud Demanche, Arnaud qui nous parlait vendredi de Gabriel Attal qui souhaite mentionner dans les dossiers Parcoursup les méfaits des élèves fauteurs de troubles.
Je sais que si j'avais eu mon bac avec la mention fauteur de troubles, ça aurait été ma légion d'honneur. Non, mais j'aurais primé à tous mes rencarts Tinder. Ah, tu sais que je suis mention fauteur de troubles. Oh là là, quel bad boy. Je sens la testostérone. C'est le genre de truc que tous les grands-pères ont envie de raconter à leurs petits-enfants. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un rebelle. J'ai eu mon brevet avec mention sacripant. Et j'ai eu le bac avec mention jeune voyou. Et mon copain Fifi, il l'a eu avec mention footeur de sbeul de l'espace. À l'époque, il n'y en a eu que 7 en France. On n'était pas nombreux. Oh, on était jeunes, c'était la folie.
Ouais, et nouvelle mention du bac revisitée par Arnaud Demanche. Arnaud, évidemment, qu'on retrouvera dans un peu moins de 2 heures, à 7h20, 8h20, dans Apolline Matin. Ce sera avec Sébastien Krebs ce matin.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h30 sur RMC et à 5h30, le journal vous est présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. À la une, ce coup de froid printanier sur une bonne partie du pays. Il va falloir se couvrir cette semaine pour ne pas tomber malade. Je pensais que maman était partie avec le camion. Les mots difficiles des enfants de Nice. 8 ans après l'attentat, ils vont témoigner pour la première fois au procès en appel. Et puis 5 jours après une soirée de rêve en Ligue des Champions, le PSG a infligé une correction à l'OL hier soir.
On ressort les affaires d'hiver. La chute des températures devrait se poursuivre cette semaine.
Oui, il fait 0 à Rennes, 6 à Marseille, 3 à Lyon. Et une semaine après, on a perdu parfois 20 degrés par endroit, un coup de froid et des malades enrhumés qui défilent devant les pharmacies. Léonie Guilbeault.
Le nez rouge et irrité, Sophie sort de la pharmacie tout en mitouflé.
C'est très froid, il y a du vent, donc on a ressorti les manteaux, les écharpes et les bonnets, et le nez coule. Toute la famille est malade.
15 degrés de moins en quelques jours, le froid est de retour, et avec lui, ses petits désagréments.
Je suis enrhumée là. Depuis le retour du froid, un peu mal à la gorge, froid, puis le nez qui coule.
Lynn a pris un Doliprane.
Et les mouchoirs, toujours dans la poche.
Même symptôme pour Fatia, grosse doudoune et capuche sur la tête.
J'ai attrapé froid parce qu'on est obligé de se couvrir, on se découvre. Ça ramène beaucoup d'allergies, de maladies.
Attraper froid à cause de la baisse des températures, un raccourci qui n'a rien de scientifique selon le docteur Charbonnel.
Le coup de froid, c'est un peu un mythe. Quand on a une température qui baisse comme ça, on n'est pas bien, on a envie qu'il fasse beau, etc. Et donc on est un peu plus sensible à l'idée d'avoir une petite rhinite passagère et on se dit bah tiens, c'est à cause du froid qui fait que statistiquement c'est pas vrai.
Le vrai responsable de votre rhume, ce n'est pas le froid mais le rhinovirus, et dans ces cas-là rien à faire selon le docteur Charbonnel à part beaucoup de repos et attendre que ça passe.
Ouais, les températures qui chutent un peu partout en France depuis la semaine dernière et ça va continuer encore dans les jours à venir. Venez nous dire ce matin comment est-ce que vous vivez ce coup de froid, comment vous vous adaptez. On vous attend, notamment vous avez la priorité si vous travaillez dehors en ce moment, si vous êtes agriculteur, si vous êtes viticulteur, arboriculteur, venez nous faire part de votre quotidien, savoir un peu comment ça se passe, est-ce que vous êtes inquiet, comment s'est passée la nuit notamment, est-ce que vous avez veillé pour s'assurer que les températures ne baissent pas trop et ne détruisent pas les cultures ce matin au travail. Si vous travaillez dehors, j'imagine que c'est pas forcément simple et on claque un peu des dents, on grelotte un petit peu. Venez nous raconter tout ça au 3216, vous laissez également vos messages sur l'appli RMC rubrique direct au studio.
L'enquête pour homicide d'un volontaire se poursuit dans le Loir-et-Cher pour comprendre comment la nacelle d'un manège a-t-elle pu s'ouvrir. En pleine fête foraine à Blois, une jeune femme de 27 ans est morte. Après avoir été éjectée, la garde à vue du forain a été prolongée. Le maire de Grande-Synthe appelle au calme face à la crainte de représailles. Martial Beyer ne veut pas que les habitants se fassent justice eux-mêmes. Une semaine après la mort de Philippe Kopmann, ce jeune de 22 ans passé à tabac tué sur un parking, deux mineurs de 14 et 15 ans sont en détention dans ce dossier. Le cousin de l'un d'eux a été roué de coups et laissé dénudé ce week-end. Un déferlement de violence qui inquiète les habitants.
On voit que les gens ont un peu peur, disons. Ils craignent.
C'est l'angoisse, quoi. Donc, on est à l'abri de rien maintenant. J'ose même plus aller sur Grande-Synthe. Qu'est-ce qui va se passer encore?
On se méfie, on ne sort plus le soir. Au maximum 6 heures, on est rentré. Hein. Même des personnes âgées, parce que les personnes âgées, ils peuvent pas se défendre contre des gamins comme ça. Ils ont des couteaux, des fois, ils ont des armes. Donc, à 14-15 ans, nous, on pensait pas à tuer quelqu'un. C'est pas normal, c'est pas logique.
Samara ne reprendra pas le chemin du collège ce matin, contrairement aux autres élèves de l'Académie de Montpellier de retour de vacances. L'adolescente de 13 ans, violemment frappée devant son collège, va reprendre les cours à distance. Les élèves mis en cause dans son agression, eux, passeront devant un conseil disciplinaire. Ils ont pour le moment interdiction d'entrer dans leur établissement. L'avocat de la mère de Samara, Marc Galix, raconte le traumatisme de la collégienne.
Aujourd'hui, sa fille ne parle pas, sa fille a peur. Sa fille dort avec sa mère dans un canapé au rez-de-chaussée de la maison qu'elles occupent. Sa fille est pratiquement mutique. Sa fille voit tous les jours, quotidiennement, un pédopsychiatre pour l'aider à finalement à sortir de ce traumatisme. Samara ne pourra pas être scolarisée avant la rentrée du mois de septembre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa maman a demandé à ce qu'elle puisse suivre des cours dans la maison de sa mère, pour quand même ne pas perdre contact avec sa scolarité.
L'enquête judiciaire, elle se poursuit. Trois mineurs ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Contre les violences des jeunes, Gabriel Attal se rend à Nice pour visiter ce matin le premier internat éducatif au lycée du Parc Impérial. Un internat pour accompagner les mineurs sur la voie de la délinquance.
Le procès en appel de l'attentat de Nice s'ouvre ce matin.
Pour juger à nouveau deux accusés 8 ans après l'attaque qui a fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Pour la première fois, des enfants vont être entendus. Un moment difficile, mais peut-être libérateur. Thomas Chupin avec BFM Côte d'Azur.
Et parmi ses 9 enfants, Kenza, elle avait 4 ans le 14 juillet 2016.
J'ai l'impression que ça nous fait du bien, nous, de dire ce qu'on a vécu ce soir-là.
Et Kenza a des souvenirs très précis, plus précis que ceux de sa maman, dit-elle. Alors à l'audience, elle va raconter ces moments qui l'ont traumatisée.
Quand on était passé sous le camion, je pensais que maman, elle était partie avec le camion. Je me rappelle aussi quand maman s'était relevée du camion. Et ben, elle avait peur que moi, je saignais, parce que j'avais son sang sur moi, en fait.
Hassim veut lui aussi faire comprendre à quel point l'attentat a changé sa vie. Il avait 6 ans au moment de l'attaque.
À l'école aussi, il y a beaucoup de monde. J'essaye pas trop de me rapprocher des gens. J'ai peur des endroits où il y a du monde, on va dire. Comme le carnaval, j'ai pas pu y aller parce que j'avais peur aussi.
Lors du premier procès, Kimberley avait pu témoigner. Plus âgée, mais encore adolescente, elle avait 16 ans en 2016. Depuis, elle insiste, la parole, même des plus jeunes, est importante.
C'est pas parce qu'on est petit que forcément on comprend moins de choses. On comprend très bien ce qu'on a vécu. C'est important de faire comprendre aux gens, oui, les enfants, on est traumatisés.
Et pour que ces enfants témoignent de manière naturelle, sans la pression d'une véritable salle d'audience, c'est à distance qu'ils prendront la parole en visio depuis une salle aménagée à Nice.
Israël hausse le ton, la pression militaire contre le Hamas va s'accentuer dans les prochains jours, prévient Benjamin Netanyahou, alors que des dizaines de corps ont été découverts enterrés dans la cour d'un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 50 corps auraient été exhumés. Il se rapproche du sacre en Ligue 1. Victoire des Parisiens 4-1 face à Lyon au Parc des Princes. Pierre Sage, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, assure que cette défaite n'est pas inquiétante au vu de la finale de la Coupe de France qui opposera les Lyonnais au PSG le 25 mai prochain.
Malheureusement, le football, la note artistique, elle ne paye jamais. Et à la fin, tout ce qu'on retiendra, c'est que Lyon a perdu 4-1 à Paris. Effectivement, il y a des choses à garder et d'autres choses à faire évoluer pour nos matchs suivants déjà. Et c'est les matchs suivants qui nous permettront de préparer notre finale. C'est pas ce match-là particulier, c'est ce qui va se passer entre-temps.
Le dauphin de la Ligue 1 qui a changé, Brest a cédé sa deuxième place à Monaco. Les Monégasques sont imposés à Brest 2-0. Marseille arrache le nul de partout face à Toulouse. Un peu plus tôt hier, Lille l'a emporté à domicile face à Strasbourg et Montpellier face à Reims. Et puis, je vous raconte l'histoire d'un biologiste marin qui a fait un pari un peu fou. Il va partir au Tuamotu, donc c'est un archipel à l'est de la Polynésie française, en plein milieu de l'océan Pacifique, pendant 8 mois.
Jusque-là, tout va bien.
en autarcie. Il va partir sans vivre, sans eau, sans rien du tout. Il va s'installer pour observer un environnement très préservé, en particulier le titi. C'est un oiseau terrestre unique qui est en danger d'extinction. Mathieu Juncker va donc passer 8 mois sur ce petit récif. Il va vivre tout seul pour manger, pour boire, pour s'abriter, pour se soigner. Il va se servir notamment des cocotiers pour boire l'eau des noix de coco sur l'atoll. Il emporte quand même un petit désalinisateur et une grande bâche pour récolter l'eau de pluie, mais ça va être...
Il va être surveillé quand même, il va être suivi.
Il va être en contact, effectivement, avec la Terre pour que le Robinson Crusoe puisse donner l'alerte s'il a quand même quelques...
C'est pas mal.
Géraldine, ça te tenterait, ouais.
Je pars tout de suite.
8 mois. Ouais, 8 mois, c'est long quand même. Hein.
Sans
rien du tout.
Allez, sans rien.
Ouais, sans rien. Non, un petit bouquin. Non, même pas un petit bouquin, quand même.
Ah, peut-être, oui. Peut-être qu'on lui autorise. Allez, on lui autorise quelques livres.
La question à Cédric Dandeville qui nous rejoint, c'est Cédric.
Jamais également. De la vie, moi, je reste chez moi tranquille.
Moi, je suis comme toi.
Fou.
Moi, je suis comme toi. Je le tenterai pas.
Il n'y a pas Netflix.
Les courses, Thomas, également, aujourd'hui, c'est à Bordeaux-le-Bouscat, c'est ça?
Oui, à 13h55, et le pronostic de la Dream Team RMC, le favori numéro 6, Monoragan, l'outsider, le 11, Paco, le 6 et le 11 des courses. C'est à vivre en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Thomas Schnell. À 5h39 sur RMC, on va aller faire un tour sur Direct Studio, regarder quel temps et surtout quelle température il fait du côté de chez vous.
Ah bah, y a Delphine qui nous dit qu'à Saint-Maximin dans le Var, il fait 5 degrés. Vous êtes nombreux aussi à nous rappeler le célèbre dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc ça ne nous surprend pas forcément ce froid. Plus surprenant, c'est les températures avant. On a Mathéo qui nous dit, vous vous rendez compte, dans le sud, on a eu 30 degrés fin mars, début avril. C'est ça qui est totalement anormal. Et puis on a Julien qui dit, c'est pas la première fois qu'il fait un peu froid en avril. On est dans la victimisation à outrance, où les gens se plaignent pour tout et pour rien.
Effectivement, on se plaint. Après, c'est vrai que quand on est agriculteur, on peut imaginer que c'est un peu inquiétant, en tout cas, ces températures. Tiens, rappelez-nous, hein, si vous êtes agriculteur, si vous travaillez dehors, est-ce que vous comprenez la remarque de Julien? Voilà, venez nous dire un peu comment ça se passe pour vous actuellement dans les champs, notamment au niveau des arbres fruitiers. Je pense aussi aux vignobles, savoir un peu comment vous vivez les nuits quand on travaille dans ces secteurs-là. Vous nous appelez au 3216 et vous continuez de laisser vos messages sur RMC, rubrique Direct Studio, 5h40 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
L'heure de jouer avec l'actu, avec cette question qu'on vous pose comme tous les matins, la question du jour. On parle de foot ce matin, Géraldine.
Oui, sur quel score le PSG s'est-il imposé hier face à Lyon en Ligue 1?
Le match avait lieu hier, si vous avez
Moi je sais.
Peut-être que Cédric Dandeville va en parler, mais en tout cas, voilà, cette réponse, normalement vous l'avez entendue, Thomas Schnell en a parlé dans son journal, la réponse elle est partout ce matin sur RMC de toute façon. Donc la réponse, vous l'avez forcément, cette réponse, et bien vous envoyez le mot actu par SMS au 7-32-16, actu par SMS au 7-32-16 pour gagner, Géraldine.
Un radio-réveil de la marque Muse, et si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne à 6h20.
Rendez-vous donc à 6h20, mais d'ici là, vous jouez avec nous. Sur quel score le PSG s'est-il imposé hier face à Lyon en Ligue 1, clôture de la 30e journée? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 7-32-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Comme tous les jours dans les indiscrets RMC, on vous emmène dans les coulisses de l'actu. Aujourd'hui, c'est avec Marion Gauthier. Bonjour Marion.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
À partir d'aujourd'hui, Marion, une commission spéciale de 70 députés se penche sur le projet de loi sur la fin de vie avant le passage du texte à l'Assemblée nationale. Ce sera à partir du 27 mai. Et vous nous révélez, Marion, que ce sujet sensible mobilise en coulisses.
Tout le monde est concerné. Forcément, vous avez plus de mails que d'habitude, lance un membre de la commission spéciale. Énormément de témoignages de Français, souligne un autre. Mais aussi les classiques, communiqués de presse d'associations, demandes de rendez-vous en circonscription. Et les premiers retours de ces rencontres, c'est qu'on peut faire douter les députés, se réjouit un opposant au texte. Sujet délicat, dit marge de manœuvre pour ceux qui veulent convaincre que la loi va trop ou pas assez loin. On met la pression sur nos élus, on veut les attraper pour leur dire ce qu'on réclame. Les jeunes de l'association pour le droit à mourir dans la dignité prévoient pour leur site internet un module d'interpellation, une lettre préécrite que les militants pourront compléter et envoyer à leurs députés. Déjà, le calendrier parlementaire se remplit. 13 mai, conférence organisée au Sénat. 16 mai, colloque à l'Assemblée nationale porté par le collectif soignant. D'autres dates restent à confirmer, précise des associations. L'enjeu, c'est l'examen du projet de loi en plénière. On va avoir beaucoup de travail avec les collègues, glisse une députée de la commission. Ils auront reçu énormément énormément d'informations de tous les côtés, dit-elle, sans avoir autant travaillé le sujet. Ça ne fait que commencer. Lors des précédents débats sur la fin de vie, on avait eu des menaces de mort, rappellent plusieurs élus qui clament leur sérénité aujourd'hui, comme pour appeler au calme.
Ton discret signé Marion Gauthier ce matin avec le service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
5h42 sur RMC, vous reconnaissez la petite musique, toute la bande de Charles Matin est là et tout le monde nous a rejoint. Cédric Dandeville, vous l'avez déjà entendu pour la Story Sport. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
Tu parles de quoi ce matin ?
Je vais vous parler d'une longévité record, celle de Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain. Il a été célébré hier, feu d'artifice, fumigène. Le grand jeu, je vais tout vous raconter.
Et en plus, il y a eu la victoire du PSG au bout, tu nous racontes tout ça dans un instant. Anthony Morel, également, salut Anthony.
Salut tout le monde, je vais vous parler d'une intelligence artificielle qui fait parler les photos. Tu prends une photo et elle va prendre vie sous tes yeux, c'est assez incroyable.
Ça s'appelle une vidéo.
Ça s'appelle une vidéo. Ouais, mais en partant d'une photo.
C'est incroyable.
Ça c'est fort et tu nous dévoiles les secrets de ces photos vivantes dans un instant. Et puis comme chaque jour, on aura ton bonus, Géraldine également.
Ouais, il y a une nouvelle sitcom qui débarque ce soir sur Canal et alors je peux vous dire que ça va faire un énorme carton.
Et puis venez vous installer avec nous autour de la table, discuter de tout ça avec nous. Tiens, je vois Stéphane qui est déjà là, qui nous appelle depuis le Val d'Oise. Il va commenter toute cette actu avec nous dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, Charles Matin.
5h44 sur RMC, Cédric Dandeville, Anthony Morel, Géraldine Demoury, tout le monde est là en studio, toute la bande autour de moi. Cédric Dandeville qui a nous parlé du capitaine du PSG qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club. Anthony Morel qui va faire chanter les photos, voilà, tout ce matin.
C'est ça,
Anthony Morel.
Il est fort, Anthony, quand même.
Il est vraiment de la magie,
Anthony Morel. Et puis on va essayer également regarder une nouvelle sitcom, tiens, tout à l'heure avec Géraldine. Mais d'abord, Stéphane qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane.
Bonjour Martin et Géraldine.
Salut Stéphane. Salut Stéphane.
Bonjour à tout le monde.
Comment ça va Stéphane ce matin ?
Impeccable.
Chauffagiste ?
Chauffagiste.
Oui. J'imagine qu'il y a du boulot en ce moment. On parle depuis tout à l'heure de la baisse des températures. Comment ça se passe pour vous au niveau du boulot ?
Bon, c'est encore en fonctionnement depuis encore quelques temps encore. Mais ça marche régulièrement depuis longtemps. Hein. Ouais. Les températures en avril, voyez, c'est surtout ce qui a été surprenant, c'était les 28-29 degrés il y a 10 jours. Hein.
Bah c'est ça.
C'est surtout ça, parce que 10-11 degrés, le gel, la pluie, le vent, bon, c'est pas méchant non plus.
Oui, ça c'est du classique, mais c'est l'écart effectivement de température avec...
Oui, c'est ça. C'est assez surprenant les 2-3 week-ends qu'on a eu très très chaud là entre le vent du sable africain et puis il y a 10 jours à Paris là. Moi, j'étais à Paris le samedi là, c'était hallucinant la température.
Et est-ce qu'il y a des clients qui sont surpris quand vous allez chez eux là depuis une petite semaine?
Non, moi dans mon Val d'Oise, non, les gens ils sont en pavillon, ils ont l'habitude de savoir que bon bah le chauffage fonctionne aller jusqu'à mi-mai, jusqu'au sein de glace comme on dit.
Ouais.
Quand on est un petit peu ancien, jusqu'au sein de glace. Après les systèmes automatiques se coupent et redémarrent. Oui, j'ai eu quelques pannes en urgence la semaine dernière, parce que c'est vrai que 10 degrés, il faisait un peu frais quoi.
Oui, quand ça passe du jour au lendemain, ça fait tout de suite un peu bizarre.
Oui, il y a eu des redémarrages particuliers de chaudière parce que ça s'était vraiment bien coupé pendant 2 jours. Mmh. Bon, mais bon, c'est pas non plus...
Ça a un effet sur le business ou pas ?
Non.
Non, pas plus que ça. Non, ça vous donne pas plus de travail là, en fait.
Non, c'est la longueur. Moi, nous, je suis pas juste sous les agriculteurs, les viticulteurs. Mmh. C'est pas sur un coup d'un instantané, mais c'est surtout la longueur qui compte. Et il a pas fait froid cet hiver. Hein.
Non, il n'a pas fait froid cet hiver et il fait pas non plus ce que disait Géraldine tout à l'heure. Il fait pas non plus. On n'est pas sur des températures extraordinaires. On n'est pas sur des records de fraîcheur.
Très loin des records de froid.
Très loin, très loin. Moi, j'ai connu en 40 ans de mois d'avril. Non,
rien à voir, rien à voir avec tout ça. Stéphane, vous aimez le sport ?
Oui, bien sûr.
Vous avez regardé le match du PSG hier soir ?
Non, j'ai pas la chaîne pour ça.
Ouais, et vous avez peut-être suivi ça sur RMC.
Cette rencontre. Voilà, et puis l'after, en fait.
Et la belle victoire du PSG.
Et puis si vous êtes du Val d'Oise, vous êtes peut-être supporter du PSG, qui sait ?
En partie, oui.
En partie. Le cœur est partagé, donc.
Oui, tout à fait.
Vous savez qu'il y a un club avec lequel on peut pas partager quand on est supporter du PSG. Vous voyez lequel ?
Il y a maillot vert aussi.
Un maillot vert aussi.
Ah, d'accord.
Bon, ça va, c'est pas le maillot ciel et blanc avec lequel c'est un peu plus compliqué. le foot, justement, Cédric, le PSG qui est quasiment champion après sa victoire, donc on en parlait hier contre Lyon, victoire 4-1 dans un Parc des Princes, qui a fait la fête pas que parce que le PSG a gagné qu'a fait la fête aussi avec ce vibrant hommage rendu à Marquinhos qui est devenu le capitaine record.
Oui, un record établi le 10 avril dernier contre Barcelone en demi-finale aller de Ligue des Champions. Avec 436 matchs, le Brésilien est devenu le joueur le plus capé donc de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Il fallait absolument marquer le coup, occasion rêvée ce dimanche soir contre l'OL. Le défenseur d'abord a eu le droit à son tifo géant dans les tribunes et puis à une première grosse ovation lors de sa sortie du terrain à 20 minutes de la fin. Des Marquinhos dans tout le stade pour sa 438e désormais avec le PSG. Mais ça, c'était que l'apéro. Hein. La vraie fiesta, c'était pour après, au coup de sifflet final, un peu après 23h. Tout un cérémonial, une haie d'honneur à la sortie du tunnel. Tous les joueurs parisiens portaient un t-shirt à l'effigie de Marquinhos. Et puis, au bout de quelques secondes, feu d'artifice pour la sortie du héros sous les vivas du public. Le marquis est accompagné de sa femme, de ses trois enfants. Il y a le frangin, le papa aussi. Et puis, le président du PSG, Nasser El Khelaifi, lui remet un trophée en forme de tour Eiffel. Direction enfin l'estrade au centre de la pelouse pour le discours.
C'est un honneur pour moi, c'est une grande fierté. Porter ce maillot, ces couleurs, c'est une responsabilité énorme. C'est un club immense qui a des grandes ambitions. Et aujourd'hui, d'être capitaine de cette équipe, c'est et rentrer dans l'histoire avec autant de matchs comme ça, c'est une grande fierté pour moi. Merci beaucoup.
Voilà, un Marquinhos très ému, au bord des larmes presque, qui a même lancé un « Paris, c'est ma vie ».
Une nouvelle formule qui est sympa d'ailleurs. Il faut dire que cette histoire entre le Marquinhos et le PSG, c'est l'histoire d'une belle fidélité.
Oui, j'espère que vous l'êtes aussi dans la vie tous autour du plateau.
Oui.
Voilà, parce que dans le football, ça court pas les rues.
C'est pas commun.
Marquinhos, c'est quasiment l'homme d'un seul club. Hein. Il a débarqué dans la capitale en 2013 avec son appareil dentaire, 19 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 29. Un vrai symbole de l'ère qatari, capitaine depuis 2020. Un leader parfois critiqué pour son manque de charisme, de caractère. En tout cas, dans le vestiaire, le statut du marquis est respecté, y compris par Mbappé. Au moment de prolonger son contrat en 2022, l'attaquant avait refusé de piquer le brassard à Marquinhos.
Il y a déjà un capitaine, voilà. C'est un joueur important en plus de notre projet. J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, un joueur important et il mérite son brassard.
Il faut dire que Marquinhos, c'est le capitaine modèle. Hein. État d'esprit collectif, sens du sacrifice, respect de l'institution. Alors non, c'est pas glamour. Hein. C'est pas une superstar à la Ibrahimovic, Neymar ou Messi. Mais en voilà un qui aime son club et on l'a encore vu hier soir. Apparemment, c'est réciproque.
Paris
SG. Marquinhos au milieu du parc qui chante avec ses supporters, c'est au milieu des fumigènes. L'histoire n'est pas terminée, hein. Il va pouvoir largement améliorer son record de matchs joués à Paris. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2028. Il rêve même de finir au PSG avec qui il a déjà gagné 28 trophées. Les hauts, les bas, il a tout connu, enfin presque. Reste cette maudite Ligue des Champions. Paris est en demi-finale contre Dortmund et Marquinhos ne l'a pas caché hier soir cette fois. Il veut aller au bout.
On imagine bien et on imagine que tous les supporters parisiens comme Stéphane veulent aller au bout cette année en Ligue des Champions. Stéphane, cet hommage, Marquinhos, il le mérite, c'est un joueur emblématique
oui.
du PSG.
Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Dans la suite du PSG, c'est un grand joueur du PSG. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais c'est vrai que c'est surtout cette année on a retrouvé Marquinhos.
C'est vrai que l'année dernière c'était peut-être un peu plus compliqué, mais cette année il est revenu au haut niveau et sa fin de match contre Dortmund l'a encore montré.
Ouais.
Marquinhos, il y a des chances qu'on retrouve ses photos dans les couloirs du Parc des Princes dans les semaines à venir. Tiens, des photos, ce sera peut-être des photos qui parlent. Anthony, peut-être. C'est ça dont tu nous parles ce matin, la course folle à l'intelligence artificielle. Toutes les semaines, il y a un nouvel outil à couper le souffle. Et donc aujourd'hui, vous nous permettez, vous fait découvrir un logiciel qui permet de donner vie et de même de faire parler donc des photos.
Ouais, je sais pas si vous vous souvenez des journaux dans les films Harry Potter. Vous savez, je sais que j'ai réalisé.
C'est génial.
Ouais, où les photos, tout à coup, à la une du journal, deviennent vivantes. Elles s'animent, elles se mettent à parler. Bah, c'est exactement le principe de cet objet, de cet outil dont je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Vasa, qui a été dévoilé par le département de recherche de Microsoft. Le principe est simple, tu prends n'importe quelle photo, une photo de n'importe qui, ça peut être toi, moi, une célébrité, peu importe. Ensuite, tu choisis un fichier audio, de la même personne, un enregistrement, ou de quelqu'un d'autre, je sais pas, le dernier tube de Beyoncé par exemple, et l'intelligence artificielle va transformer la photo, donc une image fixe par définition, en lui faisant dire ou chanter le texte en question. Et alors là, c'est miraculeux, c'est-à-dire que ses traits vont s'animer, les yeux se mettent à cligner, les muscles du visage bougent avec un réalisme absolument dingue, et les mouvements des lèvres se synchronisent parfaitement avec le texte prononcé. Ça fonctionne avec des vraies photos, ça fonctionne aussi avec des œuvres d'art. Il y a un morceau qui est devenu viral, on voit la Joconde qui se met à rapper par exemple. Faut voir le côté, alors on va voir le côté négatif après parce qu'effectivement ça fait un peu peur, mais on va pouvoir utiliser ce genre d'outils pour inventer des assistants virtuels d'un nouveau genre. Tu peux imaginer par exemple pédagogique, hein, Napoléon qui t'explique la bataille d'Austerlitz, t'as l'impression de l'avoir devant toi à partir d'un portrait de l'empereur, il va prendre vie et il va t'expliquer la bataille. Pourquoi
si
pas
ça à l'école, ça va être plus intéressant pour
les cours d'histoire.
C'est génial. Et moi je pensais aussi pour le télétravail, tu sais, quand t'es en visio là, lundi matin, t'es un peu fatigué, t'as des cernes sous les yeux, t'as pas trop envie de montrer ta tête à tes collègues, bah tu fais juste une photo, tu parles et ta photo va s'animer.
Tu veux ma photo, mais là ce sera plus que ça.
C'est exactement ça.
Ouais, ouais. Puis au-delà de ça, moi je suis venu voir ma grand-mère chanter Beyoncé, ça me donne envie.
on peut déjà l'utiliser, c'est tout, parce que tu parlais des côtés positifs, il y a aussi des risques, hein, ça peut être dangereux, notamment on parle d'usurpation d'identité.
Évidemment, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas l'utiliser nous pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant c'est une démonstration qui a été dévoilée par Microsoft, mais on ne peut pas le faire avec n'importe quoi pour l'instant, ça va sûrement arriver dans les mois qui viennent. C'est vrai que les risques sont nombreux, usurpation d'identité, là t'imagines, il suffit d'avoir une photo de toi, même trouvée sur internet, pour te faire raconter n'importe quoi. Donc tu reçois, je sais pas moi, un message d'un de tes proches, c'est une vidéo de lui, tu vois ses lèvres qui bougent, c'est sa voix, et il te dit j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent de manière urgente. On a souvent ce genre d'arnaque, mais aujourd'hui, tu sais, c'est un message avec 12 fautes d'orthographe. Là, demain, ce sera une vidéo plus vraie que nature. Forcément, ça représente un problème. Et puis, on peut penser aussi au risque démocratique de manipulation, par exemple, ou de tromperie dans une élection où tu vas prendre une photo d'un homme politique et puis tu vas le transformer en vidéo pour lui faire dire absolument n'importe quoi. Donc, évidemment, il y a des dérives potentielles, mais on peut aussi voir les côtés positifs de ce genre d'application.
Et peut-être l'avenir également de la photo. Ouais. En tout cas, tes chroniques.
Et ce qui est fort, c'est que ce soit Vaza, parce que moi, je crois qu'ils faisaient des biscottes.
Oui, c'est ça, Freddy Vaza. Premier truc auquel j'ai pensé aussi. Bah, c'est écrit avec un V, je crois que les biscottes, c'est avec un double.
Le renouvellement, ça marche pour tout le monde. Ouais. Géraldine, ton bonus ce matin, c'est la nouvelle sitcom signée Jamel Debbouze.
Bah oui, et quand on parle de sitcom et de Jamel Debbouze, on pense forcément à ça.
Ah, génial.
Ouais, bah oui, vous reconnaissez, hein, la série H, bah, c'est le quotidien d'une équipe de bras cassés au sein d'un hôpital. Et un tout jeune Jamel Debbouze, star de la série, 26 ans plus tard, on le retrouve donc à partir de ce soir dans Terminal.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Jamel, mais aussi Ramzy que vous venez d'entendre, hein, qui remettent ça. Cette fois, il nous emmène à l'aéroport pour nous raconter le quotidien de la compagnie aérienne Fly Wings, présentée comme la plus low des compagnies low cost. On verra aussi Camille Champoux, Tristan Lopin. Il y aura des invités comme Kad Merad, Manu Payet ou Camille Cotin. Et donc, ça commence ce soir sur Canal Terminal.
Fly Wings, donc la compagnie aérienne. Merci beaucoup Géraldine. Merci également Stéphane de nous avoir appelé au 3216. Cédric, Anthony, merci également d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story pour la météo et le journal. À tout de suite.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h, le journal, c'est avec Quentin Vinaire. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Des mesures disciplinaires contre les agresseurs de la jeune Samara à Montpellier. Annonce du rectorat hier soir. L'adolescente Rouetko, devant son collège au début du mois, reprendra les cours, mais à distance ce matin. L'autoroute A13, toujours coupée alors qu'il est entre Paris et Vaucresson dans l'ouest parisien. La faute à une fissure sur la chaussée. Et le PSG qui se rapproche du titre en football. Victoire 4-1 contre Lyon hier soir et 11 points d'avance désormais sur le nouveau dauphin Monaco.
Et puis les températures qui chutent partout en France. Le gel qui menace nos cultures. On appelle un viticulteur de l'Ardèche. Tiens, juste après le journal, il a passé la nuit à veiller sur ses vignes. Le rectorat de Montpellier annonce des mesures disciplinaires 3 semaines après l'agression de la jeune Samara.
Oui, 13 ans, roué de coups devant son collège. 3 adolescents de 14 et 15 ans ont été mis en examen depuis. Une enquête administrative a été lancée. Les cours reprennent, donc c'est la fin des vacances, hein, ce matin au collège Arthur Rimbaud à Montpellier. Mais la jeune fille n'y sera pas. Samara reprendra les cours à distance, hein, Julien Coudreau.
Son état de santé ne lui permet tout simplement pas, même s'il s'est amélioré depuis son agression. Selon le rectorat, impossible de reprendre les cours. Également, selon son avocat, qui décrit une ado quasi mutique, apeurée à l'idée de sortir dans la rue. Samara va donc suivre des cours à distance pour lui permettre de bénéficier d'une continuité pédagogique depuis son domicile, dans l'attente de son retour. C'est le souhait notamment de sa mère. Pas de rentrée non plus pour les mises en cause qui ont interdiction d'entrer dans leur établissement respectif. Tous n'étaient pas scolarisés dans le collège de Samara, mais tous passeront bientôt en conseil de discipline. À brève échéance, selon le rectorat qui affirmait hier soir renouveler sa confiance aux équipes du collège Arthur Rimbaud, la rectrice pourrait rencontrer ses personnels ce matin alors qu'un préavis de grève a été déposé par la section locale du syndicat SNES-FSU pour dénoncer notamment le silence des autorités jusqu'alors.
Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal sera ce matin à Nice pour ouvrir un internat éducatif au lycée du Parc Impérial. Dans la foulée de ses annonces pour restaurer l'autorité auprès des jeunes, ça s'adresse à ceux qui sont sur la mauvaise pente, hein, Cyprien Pézerie du service politique RMC.
Des mineurs décrits comme à la dérive, accueillis pendant 2 semaines de vacances scolaires, envoyés loin de chez eux, avec l'accord de leurs parents pour combler leur temps libre, les faire sortir de leur environnement et leur donner l'opportunité de retrouver un cadre, explique Matignon. Au programme soutien scolaire, éducation civique et sport, encadré par des professionnels de la jeunesse ou encore par des gendarmes réservistes. Il y a donc cette formule. Pendant les vacances, il y aura aussi, dès septembre, une autre à l'année. 50 000 places sont libres dans 1 600 collèges et lycées du pays. C'est une mesure éducative, défend l'entourage du Premier ministre. Pourtant, ce matin, il ne sera pas accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, mais par celui de la Justice. Les syndicats d'enseignants dénoncent d'ailleurs une approche idéologique de l'internat, vu selon eux uniquement comme un lieu de redressement.
C'est le début aujourd'hui du procès en appel de l'attentat de Nice qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés en 2016. Les deux complices du terroriste qui clament leur innocence avaient été condamnés à 18 ans de prison lors du premier procès. Un propriétaire de manège, toujours en garde à vue ce matin à Blois, après le décès d'une jeune femme de 27 ans samedi soir, éjectée de la nacelle d'un manège à sensations fortes à la Fête Foraine, morte de ses blessures à l'hôpital. La fin des vacances reprises ce matin pour la zone C, c'est celle des Parisiens. Et d'ailleurs, mauvaise surprise pour eux, mauvaise surprise à l'ouest de Paris, puisque l'autoroute A13, à la sortie de la capitale jusqu'à Vaucresson, est fermée à cause de fissures décrites comme importantes sur la route. Et pour cause, jusqu'à 80 cm de profondeur par endroit, c'est la faute à un mouvement de terrain. Fermé donc pour plusieurs jours, et c'est problématique parce que l'axe est emprunté, très emprunté, jusqu'à 100 000 véhicules par jour, et aussi parce que les solutions comme l'A14 ou le tunnel de l'A86 sont payantes. Voilà ce que nous dit Abdelkader Morgade de la Fédération Nationale des Taxis Indépendants.
La A13, c'est un artère principal pour nous, très important. Tout le monde va emprunter des itinéraires bis, et on va tous se retrouver au même endroit. On a des clients qui ne veulent vraiment pas prendre le taxi parce que ça sera plus long. Et bien sûr, pour la facture, ça sera beaucoup plus cher pour eux. Le temps de revenir à vide, ça peut être aussi un temps énorme. Donc les deux sont perdants, et le client et le chauffeur. On ne sait pas dans combien de temps ça va être réparé, tout ça, mais ça va être catastrophique.
Il est 6h05 sur RMC. L'Europe a connu l'année dernière un nombre record de jours d'où la chaleur ressentie par ses habitants a été extrême. Voilà ce qu'annoncent ce matin les Nations Unies et l'Observatoire européen Copernicus, à savoir donc une température ressentie qui dépasse les 46 degrés. Alors en ce moment, c'est plutôt un coup de froid qui nous surprend. Santé publique France vient d'ailleurs de publier les chiffres de la vaccination en France pour l'année dernière. Vaccination qui est à la hausse, sauf auprès d'une catégorie de personnes. Les plus de 65 ans, les seniors, pour qui le taux de vaccination est en baisse, nous dit Martin Cadorel, correspondant de RMC à Rennes.
Habituellement, Annie, 69 ans, se fait vacciner contre la grippe, mais pas cette année.
Du fait de mon âge, j'ai reçu un courrier par la CPAM en me disant que j'avais le droit d'aller chercher mon vaccin à la pharmacie. Et j'ai laissé passer le temps, et puis en janvier, je me suis dit, oh, bah, c'est trop tard pour me faire vacciner. Puis je me suis dit, bah, c'est plus la peine, je vais bien.
54% des plus de 65 ans se sont vaccinés contre la grippe cet hiver. Un chiffre en baisse par rapport à la saison précédente, et pourtant les conséquences sont bien concrètes.
Je suis tombée malade. J'étais clouée au lit pendant 15 jours, et j'ai eu du mal à me remettre. Bah, la grippe, moi, je vais la refaire.
La couverture vaccinale du Covid est aussi en baisse. Jean-Yves, 70 ans, avait pourtant fait les premières injections.
Pour le moment, c'est un petit peu oublié. En ce moment, on n'en entend pas parler du Covid. C'est peut-être aussi par rapport à la conjoncture qui est meilleure quand même.
Ce recul des vaccinations grippe et Covid n'alarme pas Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.
Ça avait beaucoup progressé ces dernières années. Donc effectivement, là, juste sur la dernière, on a un petit retour à la baisse, mais ce n'est pas forcément un problème majeur pour l'instant.
Concernant le Covid, elle insiste sur l'importance d'une autre injection pour les personnes les plus à risque. Une nouvelle campagne vaccinale leur est destinée à la démarrer le 15 avril.
Le foot, c'est Paris qui se rapproche d'un 12e titre de champion de France. Les Parisiens qui ont battu Lyon 4-1 hier soir avec un doublé de l'attaquant Gonzalo Ramos pour la fin de la 30e journée de Ligue 1. Paris qui a le vent dans le dos en ce moment, Arthur Perrault.
Oui, après une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, Paris cartonne en championnat. Une victoire sans trembler et 11 points d'avance en tête du classement. Mais le capitaine Marquinhos reste prudent.
On enchaîne deux très bonnes prestations, très bons matchs, très bons résultats. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. On a beaucoup parlé dans le vestiaire. Il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment important de la saison qui est arrivé, moment décisif.
Luis Enrique a fait tourner son effectif. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc. Bradley Barcola et Gonzalo Ramos ont brillé. L'entraîneur parisien convaincu que son groupe est sur le chemin du succès.
Je crois que nous sommes à l'initiative d'un projet.
Nous sommes au début d'un projet, mais oui, je vois mon équipe meilleure. On doit continuer à travailler, mais avec cette qualité d'effectif, on doit voir grand. J'ai beaucoup aimé notre match contre cet adversaire difficile.
À un rival difficile.
Paris peut espérer être champion de France pour la 12e fois dès mercredi soir, en cas de victoire à Lorient, tout en espérant un faux pas de Monaco contre Lille.
Et Monaco qui a repris la 2e place du classement en allant gagner à Brest 2-0 hier après-midi. Marseille a arraché le nul de partout à Toulouse grâce à un ciseau but à la dernière minute de l'attaquant Faris Moumbagna. Et puis le rugby, c'est Bordeaux qui revient, ça y est, dans les 6 premiers du top 14 avec une large victoire 41-7 hier soir, triplé de Damien Penaud contre Clermont pour la fin de la 21e journée.
Ça va mieux pour Bordeaux en rugby, La Rochelle en ce moment, ça se passe comment, Quentin? Je prends des nouvelles.
J'entends pas.
Non, ça se passe pas. Non, en plus, c'est une vraie question pour le coup. J'ai pas regardé ce qu'ils ont fait ce week-end.
La Rochelle qui a perdu à Castres.
Ah, bon. Bon, du coup, Quentin Vinet, pas forcément heureux ce matin.
La Rochelle 6e au classement.
Bon, ça va, ils sont encore qualifiés pour les playoffs pour le moment.
Oui, il reste 5 journées de championnat. On est en plein sprint final, c'est passionnant.
Et on suivra évidemment tout ça sur RMC avec Quentin, mais aussi avec toutes les équipes d'RMC Sport. Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve dans une heure, à 7h, pour un prochain journal. Salut, Anne-Louis Chypre.
Bonjour à tous.
De retour de vacances, comment ça s'est passé?
Oui, formidable.
C'était bien, ça fait du bien, en dormir un peu.
Ah ouais. Ça, c'est le truc.
Ouais, ça c'est le truc. Géraldine disait exactement la même chose tout à l'heure. Je crois que ça a fait du bien à tout le monde. On parle avec toi dans un instant de conso. Mais d'abord, on va jouer ensemble à 6h09 sur RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Car comme tous les jours, on a une question à vous poser, question à laquelle il faut répondre pour gagner un joli cadeau. Géraldine.
Sur quel score le PSG s'est-il imposé hier face à Lyon en Ligue 1?
Quand on en a parlé il y a quelques instants, la réponse, vous la connaissez forcément. Donc vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'application Message et vous envoyez le mot Actu par SMS au 732-16. ACTU par SMS au 732-16.
Il y a un radio réveil de la marque Muse à gagner et vous serez avec nous à l'antenne dans quelques minutes.
Votre réveil, il est pour vous. Donc si vous avez la réponse à cette question, sur quel score le PSG s'est imposé hier soir face à Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1, vous avez la réponse, vous envoyez le mot Actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
La France grelotte après le coup de chaud. Au début du mois, les températures sont revenues largement sous les normales de saison et ça va durer. Et qui dit froid dit gel, nos agriculteurs craignent pour leur récolte. Notre invité dans un instant, c'est Jérôme Vol, viticulteur dans l'Ardèche et vice-président de la FNSE.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bonne journée, bon réveil sur RMC. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. Il est 6h12.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Jérôme Vol.
Bonjour.
Vous êtes viticulteur en Ardèche, vice-président du syndicat agricole FNSEA et comme beaucoup d'agriculteurs de France, vous passez des nuits pas forcément très sereines depuis quelques jours puisque le froid est de retour après les grosses chaleurs du début du mois. Le gel également menace les cultures. Alors déjà, Jérôme Vol, je vais vous demander ce matin quelle est la situation chez vous en Ardèche. Comment s'est passée la nuit et surtout comment vont vos vignes?
Alors c'est surtout à la levée du soleil que le gel peut arriver, parce qu'en fait, comme on est sur un gel blanc, en fait, le gel blanc, c'est vers le lever du soleil que la température est la plus basse. Donc aujourd'hui, à cette heure-là, où que je vous parle, à 6h15, on est autour de 0 degré, donc ça peut basculer très rapidement vers du moins 2, moins 3. Comme ça peut rester à 0 degré, on a une petite chance ce matin, je pense, c'est qu'on a un léger vent entre 5 et 20 km/h en rafale qui potentiellement pourrait nous sauver nos récoltes, en tout cas pour cette partie. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, on est sur le qui-vive parce que ça peut être facilement moins 3, moins 4. Et là, pour le coup, ce serait un gel qui viendrait endommager nos cultures.
Et ce serait dévastateur. Là, c'est donc pour l'Ardèche ou vers chez vous, il fait donc environ 0 degré ce matin, mais c'est toute la France qui subit ce rafraîchissement des températures. Géraldine, on le dit depuis ce matin, c'est un épisode qui dure.
Ah oui, ça va être un épisode qui va durer en tout une dizaine de jours. Là, c'est le 7e jour d'affilée qu'on est sous les normales. On est vraiment dans le pic. Cette nuit et surtout la nuit prochaine, c'est la nuit prochaine vraiment où ce sera le plus froid. Et puis après, les températures vont remonter et on va même repasser au-dessus des normales en fin de semaine.
Jérôme Val, on vous l'avait dit d'ailleurs, ça gèle pas encore du côté de chez vous. Mais même quand il fait 1 ou 2 degrés pour les viticulteurs, pour les arboriculteurs également, c'est compliqué, les nuits sont agitées, sont pas forcément sereines.
Ah ben aujourd'hui, pour ce qui est le cas des arboriculteurs et des vignerons qui ont des moyens de protection, tout est allumé aujourd'hui, hein, que ce soit les bougies lorsqu'on a des bougies, les éoliennes lorsqu'on peut prendre de la chaleur qui est en hauteur pour l'amener vers le sol et réchauffer le sol, ou tout simplement le système d'aspersion qui est capable de faire un igloo autour du végétal et qui permet de protéger le végétal jusqu'à, j'ai envie de dire, des températures plus douces vers 10h ou 11h du matin.
Tout ça est déjà allumé là aujourd'hui, actuellement?
Ah ben, ceux qui sont au degré spécifique de 0 degré moins 1 ont déjà commencé à allumer. Parce que sinon, s'il y a une chute de 2 degrés, en fait, on perd toute notre récolte. Donc, il y a vraiment, on est sur le qui-vive. C'est le déclenchement, pas le déclenchement. En fait, la question se pose une grosse partie de la nuit, et plus particulièrement à cette heure fatidique des 7h du matin.
Géraldine, je parle sous ton contrôle, mais l'impression, en tout cas, qu'on a, c'est que ces épisodes de froid tardifs, avec après des températures très douces en tout début de printemps, on a l'impression que c'est de plus en plus courant.
Alors en fait, cet épisode-là un peu frais, il est totalement normal. D'ailleurs, on est très très loin des records de froid hein, pour une fin avril. En revanche, effectivement, en début du mois, on a battu quelque chose comme 250 records de chaleur. Et c'est ça le problème, parce qu'avant, il y a quelques années, la végétation n'était pas du tout aussi avancée à cette période de l'année. Et donc, qu'il y ait un gel fin avril, c'était beaucoup moins gênant. Mais là, le problème, c'est que quand on a une chaleur précoce, qui est vraiment très intense, eh bien, on a cette végétation qui est beaucoup plus avancée. Et donc là, le gel pose problème, et c'est pour ça qu'avec le dérèglement climatique, paradoxalement, le gel va faire de plus en plus de dégâts, même dans les prochaines années.
Et c'est ça le problème, Jérôme Vell, c'est que ça arrive de plus en plus souvent, ça se répète. Et finalement, est-ce que vous avez vraiment des solutions, vous, agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, pour lutter?
Non, on a les trois moyens de protection que je viens de vous dire. Il y a la capacité aussi, et ça demandera du long terme, hein, parce qu'on est sur des cultures pérennes, donc avec des investissements sur 10, 15, 20, 5 ans, 30 ans pour les vignes, 35 ans. Un changement aussi peut-être des cépages permettra de pouvoir faire évoluer l'encépagement, donc avoir plutôt des cépages un peu tardifs qui permettront d'un débourrement plus tardif. Mais le phénomène d'avoir un réchauffement très précoce au mois de mars-avril avec des grands coups de chaleur, comme vient de le dire votre collègue, vient impacter évidemment la montée de sève, et donc du coup le démarrage de nos productions et évidemment elles sont plus fragiles.
Et les agriculteurs sont suffisamment équipés pour lutter contre ces épisodes réguliers?
Non, l'investissement est très lourd, donc il y a des arboriculteurs, lorsque le chiffre d'affaires le permet, investissent dans ces tours, lorsque le système de structuration de l'exploitation le permet. Mais aujourd'hui, on a très peu, malheureusement, en vigne de gens protégés, et en arboriculture encore trop faiblement. Donc il y a des investissements lourds à faire sur les exploitations agricoles, et heureusement on a quand même le Conseil régional et l'Europe qui nous accompagnent pour ces investissements-là, mais il reste quand même encore très lourd.
Il y a une question également, Jérôme Vell, qui revient régulièrement quand on parle de ces investissements, de ces épisodes de gel tardif, c'est la question des assurances. Plus de 80%, il me semble, des exploitations agricoles ne sont pas assurées contre les aléas climatiques. C'est toujours trop cher, ces assurances contre les aléas climatiques?
Eh bien, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que les assurances s'appuient sur une moyenne quinquennale. Et la moyenne quinquennale aujourd'hui en arboriculture ou en viticulture est plutôt sur des moyennes très basses liées aux aléas climatiques qu'on a eu en 2021, des épisodes de grêle assez répétitifs dans certains territoires. Et donc la moyenne est très basse. Donc en fait, on assure un capital qui reste malheureusement pas assez élevé. Donc les viticulteurs ou les arboriculteurs se posent la question économique ou pas d'aller à l'assurance. À titre personnel, je suis assuré. J'ai vécu un gros coup dur en 2021 et je sais combien, grâce à l'assurance, j'ai pu sortir de la crise financière qui aurait pu avoir sur mon entreprise agricole.
Un dernier mot rapidement, Jérôme Vol, pour les consommateurs également. Ces épisodes de gel, là, si les récoltes venaient à être détruites, au moins en partie, qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux? Ça veut dire que le prix des fruits va forcément augmenter?
Pas forcément. En fait, aujourd'hui... J'espère que l'arboriculture ne sera pas touchée de façon homogène sur tout le territoire, que ce sera des micro-phénomènes territoire par territoire et que l'on aura la compensation, j'ai envie de dire, d'un territoire vers l'autre. J'espère qu'en tout cas, on arrivera à trouver des équilibres qui permettent que les consommateurs puissent trouver des fruits français. À des prix qui permettent de pouvoir faire vivre les producteurs. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra fournir l'ensemble des consommateurs français.
On l'espère aussi. Merci beaucoup, Jérôme Vol, viticulteur en Ardèche, vice-président de la FNSEA, d'avoir été avec nous ce matin. On suivra évidemment la suite de cet épisode de froid, en tout cas de cette chute des températures et de ses conséquences avec vous, hein, puisque vous nous l'avez dit, Géraldine, également, la nuit prochaine sera peut-être la plus froide de la semaine. Et puis tiens, on vous attend également, vous, au 32-16. Hein, appelez-nous. Notamment par exemple si vous êtes agriculteur, si vous avez subi ces épisodes de gel, venez nous dire votre inquiétude, venez nous dire comment vous vivez cette période de rafraîchissement des températures, également si vous travaillez en extérieur, comment ça se passe pour vous depuis quelques jours là, depuis une petite semaine que les températures se sont mises à fortement chuter. On vous attend au 32-16, laissez-nous également vos messages sur l'appli RMC rubrique Direct Studio. 6h20
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
6h22 sur RMC, RMC Story. Manu Le Chypre livre vos courses ce matin.
RMC, Manu Conso.
Il livre nos courses, mais pas avec l'application, l'entreprise Flink, puisque cette entreprise de livraison de courses à domicile s'est déclarée en cessation de paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Oui.
Est-ce que ce qu'on appelle le quick commerce, c'est terminé?
Oui, je ne sais pas si je vais livrer vos courses encore longtemps, mon cher Martin. Alors, sous sa forme actuelle, oui, le quick commerce est sans doute terminé. C'était quasiment la dernière enseigne, hein, Flink, à promettre la livraison de courses en quelques minutes, 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Cette offre avait explosé au moment du Covid. Il y avait de nombreuses start-up qui s'étaient lancées. Et puis, l'hécatombe avait rapidement commencé, touchant des vedettes du secteur comme Gorillaz et Getir en juillet 2023. Et donc... Flink aujourd'hui.
C'était pourtant vendeur la promesse, pourquoi ça fonctionne plus?
Oui, effectivement. Alors d'abord, il y avait le pari que les habitudes des consommateurs allaient changer durablement, ce qui n'a pas été le cas, notamment à cause de l'inflation qui a ramené les Français dans les magasins pour faire les courses au plus juste et qui a aussi incité les Français à revoir leur budget, parce que chez Flink, par exemple, se faire livrer nécessitait de débourser au maximum 4,99€, des frais qui étaient dégressifs après en fonction du panier de course, mais quand c'était pour 20 ou 25 euros, ça faisait quand même cher. Et puis l'évolution de la réglementation a été très défavorable, face aux critiques des élus, notamment qui dénonçaient la multiplication des micro-entrepôts en ville, les nuisances pour les riverains. Le gouvernement donc a décrété que les dark stores, ces locaux où étaient stockés les produits à livrer, étaient des entrepôts et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité beaucoup plus stricte. Du coup, ensuite, les financements se sont taris. Et donc, c'est un modèle jeune qui va sans doute évoluer avec des formules d'abonnement, des entrepôts mieux utilisés. On voit aujourd'hui, par exemple, que des entreprises comme Uber ou Deliveroo livrent à partir de magasins déjà établis. Donc, en état actuel, c'est sans doute un marché trop jeune, mais ça marche à l'étranger. Il y a des pays comme l'Allemagne où ça fonctionne.
Et en l'état actuel, Manu Le Chypre ne va donc pas livrer vos courses et va rester avec nous. Ça nous fait bien
plaisir. Je vous attends à la caisse.
Je vous l'avoue, ça nous aide quand même. Merci beaucoup, Manu. On retrouve toutes tes chroniques, évidemment, en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Brahim. Brahim, est-ce qu'il est avec nous? Brahim, qui a été tiré au sort pour jouer au jeu avec nous. Brahim, bonjour.
Oui, bonjour. Vous m'entendez? Félicitations. Oui, on vous entend bien. Merci d'être avec nous. Félicitations. Je vous le disais, vous avez été tiré au sort pour jouer avec nous à la question d'actu. Faut répondre à la question que va vous poser Géraldine.
Sur quel score le PSG s'est-il imposé hier face à Lyon en Ligue 1?
4-1 pour
4-1.
Paris.
Bravo, bravo. Vous aviez regardé le match, Brahim?
C'est sympa. Comment?
Vous aviez regardé le match?
Oui, oui, j'ai regardé le match. C'était un très bon match. J'ai regardé aussi cela, la Ligue des Champions. Bah, c'est parfait. Franchement, ça fait plaisir.
Paris va bien en ce moment. Et vous, vous allez pouvoir avoir un joli cadeau dans votre chambre.
Un beau radio réveil de la marque Muse. Voilà, grâce au PSG, finalement.
Ah, voilà, bah, grâce au PSG. Sympa. Et grâce à RMC. Bravo, Brahim.
Merci,
le radio réveil qui part du côté de la Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Et bonjour, Sébastien Krebs.
Bravo, Brahim. Salut, Martin. Bonjour, Géraldine.
Salut,
Manu. Bonjour à tous. Et courage, surtout. C'est lundi matin. Et c'est l'hiver, Géraldine nous le répète depuis ce matin, couvrez-vous, hein, il fait froid sur une bonne partie de la France, totalement inhabituel, hein, surtout après les températures estivales qu'on a connues au début du mois, c'est vrai que ça surprend un peu. On vous attend ce matin au 32-16, venez nous raconter comment vous vous adaptez, si vous travaillez dehors, si vous êtes agriculteur pour éviter la catastrophe des gelées, comment est-ce que vous vous organisez, et puis à la maison, est-ce que vous avez rallumé le chauffage, voilà, au risque de voir à nouveau la facture grimper. Ouais. Je crois qu'on a tous rallumé le chauffage, moi aussi, hein, ce week-end. 32-16, on vous attend, l'application RMC, vous aurez la parole. Et puis à 7h40, on va essayer de comprendre cet épisode, nouveau signe du dérèglement climatique ou pas, comment s'adapter. L'ingénieur spécialiste du climat et de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, sera avec nous tout à l'heure, 7h40. À 7h10, un témoignage très fort ce matin, celui de la maman de Kenza, 11 ans. Le 14 juillet 2016, elle avait 4 ans et elle a échappé miraculeusement à l'attentat de Nice en passant sous le camion. Aujourd'hui, elle a 11 ans, donc elle va pouvoir témoigner au procès en appel. C'est sa demande, on l'entendra tout à l'heure. Et puis, on parlera de cette décision de justice qui fait beaucoup réagir, qui va vous faire réagir aussi à la maison. Cet homme accusé de violence sur ses enfants et qui a été relaxé en appel parce que les juges ont reconnu l'existence d'un droit de correction, le droit d'user de la force dans l'éducation de ses enfants. C'est un bond en arrière de 70 ans, estime l'avocat des enfants. Il sera avec nous pour son parti pris tout à l'heure à 8h10. Allez, bon réveil, bon courage en ce lundi matin. On se retrouve dans un instant pour le top départ d'Apolline Matin. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.